Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous parlons de développement industriel. Comment le développement industriel du Maroc peut-il inspirer à travers le continent et surtout, quelles filières industrielles mettre en avant? Nous en parlons avec notre invité Benoît Ranini. Il est le président du cabinet TNP Consultant. Vous l'entendrez au cours de cette émission. Le développement du secteur industriel en Côte d'Ivoire se poursuit avec l'ouverture d'une nouvelle zone agro-industrielle dans le nord du pays. Nous en parlons tout à l'heure avec la correspondance de Hippolyte Dié. Et puis notre destination éco nous mène au Sénégal. Malgré le contexte actuel très tendu et l'impact des différentes crises extérieures, la Banque mondiale estime que l'économie sénégalaise est toujours résiliente. Dans votre rubrique Destination Éco, nous écouterons ensemble la correspondance de Marema Diop depuis Dakar. Tel est le menu de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
L'avancée du désert est une réalité dans certains pays du continent. Pour y faire face, des solutions innovantes commencent à émerger. Dans cette émission, nous donnons la parole à une start-up active dans ce domaine. Il s'agit de la start-up Sand2Green, dont nous avons le plaisir de recevoir le cofondateur et CEO Benjamin Rombo. Bonjour à vous, Benjamin Rombo.
Bonjour Omar, bonjour également tous vos auditeurs.
Alors Benjamin, on sait que il y a pas mal de projets, notamment celui de la Grande Muraille Verte, qui vise donc à arrêter l'avancée du désert. Vous êtes une start-up qui essaie de faire bouger les choses de votre côté. Alors, comment est née l'idée de reverdir le désert?
Alors, l'idée initiale, si vous voulez, n'est pas tant de reverdir les déserts, mais plutôt d'arrêter la désertification. Et effectivement, chaque année, et ça peu de gens le savent malheureusement, on perd 13 millions d'hectares de terres arables à cause de la désertification. 13 millions d'hectares de terres arables, ça représente environ un terrain de football toutes les 2 à 3 secondes, ce qui est énorme. Et par exemple, dans la région dans laquelle on se développe aujourd'hui, la région de Gloumine-Ouanoun, c'est une région qui était très agricole. Il y a de ça 30 ans, on pratiquait beaucoup d'agriculture en bourg et de l'agriculture oisienne. Malheureusement, à cause de la baisse des précipitations, les agriculteurs se sont mis à aller chercher dans le sous-sol l'eau dont ils avaient besoin, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'eau disponible. Et donc, c'est vraiment toute un processus de désertification qui s'est mis en place dans cette région-là et qui se passe dans beaucoup de régions du monde, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Europe, notamment en Espagne ou en Italie. Et c'est là contre ça, contre cette désertification qu'on essaye de lutter. Et pour lutter contre ce fléau, il y a pas d'autres solutions que les solutions basées sur la nature. Donc, c'est-à-dire faire de la végétation, planter des arbres, planter des plantes. Et c'est notamment aussi un des axes de développement de la Grande Muraille Verte. Et donc, nous, on s'inscrit dans ce type de projet avec une dimension également rentabilité des plantations derrière, qui est pour nous très importante afin de multiplier la réplication de ce type de projet.
En tout cas, c'est une idée très intéressante. Cela dit, en quoi consistent les différentes solutions proposées par votre start-up?
Afin de cultiver les déserts et ainsi de transformer des terres arides en terres arables, Sand2Green propose une solution qui se décompose en trois briques. Une première brique qui est notre logiciel d'agroforesterie, qui est issu de 3 années de recherche et développement avec des scientifiques peu partout à travers le monde, spécialisé donc dans ces écosystèmes arides, et qui nous permet de savoir exactement quelles plantes et quelles arbres combiner intelligemment pour régénérer nos sols. Ce logiciel nous permet également de non seulement connaître les besoins en eau, la captation carbone, mais aussi de connaître la rentabilité future de ces plantations. Donc c'est vraiment notre core business à nous, c'est notre première brique. Ensuite, on utilise en seconde brique des unités de dessalement qui sont modulaires et qui fonctionnent à énergie solaire, auxquelles on vient ajouter une gestion de la saumure, donc qui est le déchet du dessalement. Et ces deux briques nous permettent de constituer notre troisième brique, qui sont nos plantations d'agroforesterie en milieu aride, qui vont générer trois types de revenus. Un revenu lié à la production des arbres, un revenu lié à tout ce qui est intercropping, donc culture intercalaire entre ces allées d'arbres, et un dernier revenu qui est lié au crédit carbone. Et donc on propose ces plantations d'agroforesterie en milieu aride comme investissement vert à des gestionnaires d'actifs, à des investisseurs qui cherchent non seulement à avoir un retour sur investissement qui soit non négligeable, mais aussi à faire de l'impact au niveau de la restauration de la biodiversité, au niveau de la captation carbone, de la régénération des sols, mais aussi au niveau de l'impact social en favorisant la création d'emplois et la sécurité alimentaire.
Merci à vous, Benjamin Rombo. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et CEO de la startup Sand2Green.
Merci à vous pour votre invitation, Oumar. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, au plaisir de faire en sorte que le Maroc soit le pays montré en exemple dans l'agriculture régénératrice. À bientôt, au revoir.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, le développement du secteur industriel en Côte d'Ivoire se poursuit avec l'ouverture d'une nouvelle zone agro-industrielle dans le nord du pays. Quels sont les objectifs et surtout comment cette zone agro-industrielle va-t-elle contribuer au développement de cette partie de la Côte d'Ivoire? Écoutons ensemble la correspondance depuis Abidjan de l'un de nos correspondants, Hippolyte Dié.
Les premiers responsables du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacarde ont initié une visite guidée pour la présentation du nouveau pôle industriel de Korogo destiné à la transformation de cette matière première. Il est bâti sur une superficie de 28 hectares et dispose de commodités modernes pour accueillir un lot de 7 usines transformatrices de cajou. L'objectif de cette initiative vise à booster le niveau de transformation pour le bonheur des acteurs du secteur.
Réussir, c'est créer un écosystème favorable à l'activité de transformation. Et cet écosystème part de l'amélioration des plantations, travailler à un système de commercialisation performant qui est susceptible donc de relater la traçabilité pour rassurer les consommateurs, mais surtout donc de travailler à créer donc les conditions de la transformation. À travers nos communications, nous arrivons à mobiliser des investisseurs internationaux qui vont venir occuper tout l'espace. S'il n'y a pas de nationaux dedans, nous aurons un problème sur le long terme.
Les zones agro-industrielles dédiées à la transformation de l'anacarde sont le fruit d'un partenariat entre le Conseil du coton et de l'anacarde et la Banque mondiale dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, PPCA. Celle de Korogo aura une capacité de 60 à 80 000 tonnes l'année. Pour les autorités de la capitale du Poro, sa création constitue une grande action de développement pour la région et va également faciliter la tâche à de nombreux acteurs de la chaîne.
J'invite la population, les producteurs notamment, à venir, à produire davantage. Parce que si on construit une usine comme ça, ce n'est pas pour la beauté des yeux, c'est pour qu'on puisse transformer la matière première. Il faut que la matière première soit suffisante, abondante, pour pouvoir faire fonctionner l'usine.
D'autres zones agro-industrielles destinées à l'anacarde sont prévues couvrir la ville de Mondoukou dans l'est du pays et celle de Séguéla dans le nord-est. En Côte d'Ivoire, environ 22% de la production de noix de cajou ont été transformées en 2022. Le pays, premier producteur mondial avec plus d'un million de tonnes, ambitionne de transformer 50% de sa production en 2030.
L'invité.
Notre invité s'appelle Benoît Ranini. Il est Le président de TNP Consultant, actif donc dans le Conseil sur la stratégie et l'excellence opérationnelle, ainsi que sur la transformation de la filière numérique et du data, entre autres activités. TNP Consultant a organisé à Casablanca ce jeudi 22 juin un événement sur l'industrialisation durable de l'Afrique et le rôle d'entraînement que joue le Maroc. Bonjour à vous, Benoît Ranini, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous tous et toutes.
Alors, tout d'abord, parlez-nous de cet événement. Quel en était l'objectif ?
En fait, depuis plusieurs années, TNP a organisé en France, au centre de Paris, un événement qu'on appelle les Histoires de demain, qui a vocation à regrouper un certain nombre de grands dirigeants de tous les secteurs d'activité pour parler des grands défis de notre société, des grands défis du monde autour à la fois du digital, de l'énergie, de la défense, etc. Et ça a un grand succès à Paris. Et à travers le développement international du groupe TNP, on a décidé de déployer cet événement, les Histoires de demain, dans l'ensemble des pays où nous intervenons. C'est le cas donc au Maroc, à Casablanca, mais aussi c'est le cas à Luxembourg, c'est le cas à Milan, c'est le cas à Francfort en Allemagne, mais aussi jusqu'à New Delhi et Mumbai en Inde où nous intervenons aussi. Et l'idée au Maroc, c'est de faire exactement la même chose, c'est prendre une thématique qui est aujourd'hui considérée comme importante, comme par exemple l'industrialisation de l'Afrique, du Maroc ou la transition énergétique, et faire venir un certain nombre de décideurs issus de l'économie privée, mais aussi de l'économie publique, des gouvernements, des grands patrons d'instituts financiers, des grands patrons d'industrie, et discuter ensemble, à la fois partager leurs convictions, mais aussi donner un certain nombre d'informations sur leurs projets du moment, et où ils vont et pourquoi ils y vont.
Alors, justement, il a été question de la transition digitale et de l'e-gouv. Sur ce plan-là, comment observez-vous les choses évoluer en Afrique notamment, et qu'est-ce qui est encore possible d'être réalisé comme progrès ?
Dans tout ce qui est transformation des administrations et des gouvernements à travers le digital, la technologie, les data, il y a, de notre point de vue, encore beaucoup de choses à faire. En Afrique, il y a à la fois à dématérialiser un certain nombre de services, hein, c'est-à-dire faire en sorte que demain tous les citoyens africains vont pouvoir bénéficier des services de leur gouvernement et des services des administrations de leur pays à travers un téléphone portable, à travers un PC, faire en sorte que les processus administratifs pour se faire connaître en termes d'identité, gérer ses impôts, toucher des prestations sociales, soit totalement digitalisé. Et à travers un numéro unique, à travers un certain nombre de services qui seront accessibles à travers le téléphone portable et le PC. Il en est de même aussi sur tout ce qui va toucher la gestion des investissements publics, qui peuvent être aussi mesurés, pilotés à travers de la data. Il en est aussi du même sur tout ce qui concerne les achats publics, pour avoir à la fois de la transparence et de la lisibilité. Nous-mêmes, actuellement, nous intervenons auprès du gouvernement ivoirien pour utiliser la data publique, qu'elle soit issue du dernier recensement, mais aussi toutes les datas qui concernent l'économie de Côte d'Ivoire, pour faire en sorte que ces datas raffinées, bien traitées, puissent servir aux différents ministères d'outils d'aide à la décision, de pilotage de leur investissement, savoir par rapport aux évolutions de la population où il faut mettre des nouvelles écoles, quel type de professeurs il faut mettre, où il faut mettre des nouveaux hôpitaux, quel type de docteurs il faut mettre, pour que, in fine, on soit assuré que on ait le meilleur des investissements pour la population avec les meilleurs services.
Alors, il a été donc question de l'industrialisation durable de l'Afrique et le rôle d'entraînement que joue le Maroc. Justement, parlez-nous du rôle d'entraînement que joue le Maroc dans ce processus d'industrialisation durable.
Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Afrique, au sens large, est un continent qui va vivre dans les 20 prochaines années une transformation et des transformations colossales. On va avoir un continent qui va doubler de population. On va passer d'à peu près 1,4 milliard de personnes à 2,5 milliards de personnes. Le PIB de l'Afrique va passer de 3 000 milliards d'euros à 4 500 milliards à la fin des années 2030 et à quasiment 15 000 ou 18 000 milliards d'euros en 2050. Donc ça veut dire que c'est un continent qui va énormément se développer et pour ça, l'industrialisation est essentielle parce que aujourd'hui, pour donner du travail, pour nourrir les gens, pour créer des cités, il faut que l'Afrique accélère son industrialisation. Et pour ça, le Maroc a un rôle important, puisque le Maroc est un des pays leaders dans l'industrie africaine avec l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, pour industrialiser l'Afrique, et le rôle d'entraînement du Maroc va passer par plusieurs grands leviers. Le premier levier, c'est l'énergie. Vous ne pouvez pas industrialiser un continent, et l'Afrique en particulier, si on ne crée pas une énergie abondante, à bon prix et verte. Parce que demain, si l'énergie n'est pas verte, les produits qui seront réalisés en Afrique ne pourront pas être exportés, par exemple, en Europe, puisque l'Europe va mettre des barrières associées à la greenification de vos produits. Le deuxième élément important pour industrialiser l'Afrique, c'est la formation. Si on n'a pas en Afrique des ingénieurs, des techniciens, des experts en data, en digital, en cybersécurité, on va avoir des freins à l'accélération de l'industrialisation. Aujourd'hui, on a développé un partenariat avec Centrale Casablanca, parce qu'aujourd'hui, à Centrale Casablanca, on forme de bons ingénieurs, à la fois en digital, à la fois en intelligence artificielle, à la fois en cybersécurité, mais aussi en mécanique, mais aussi en électronique. Et donc, l'idée de former des ingénieurs et des techniciens à travers le modèle marocain qui se déploie actuellement à la fois en Afrique du Nord et de l'Ouest, c'est aussi essentiel parce qu'il faut qu'on ait en Afrique des jeunes formés à la fois aux nouvelles technologies digitales, mais aussi aux métiers traditionnels du bâtiment, de l'agriculture et de la mécanique. Parce qu'aujourd'hui, il faut industrialiser sur les filières les plus porteuses de valeur.
Alors, il est donc question de cette industrialisation, on parle de cette transition numérique, mais il y a le volet financement aussi. Comment passer, disons, de la théorie à la pratique à travers la concrétisation de ce volet financement? Selon vous, comment y arriver?
En fait, comme vous l'avez dit, l'accès à l'énergie, l'accès à la formation, le troisième levier important, c'est le financement. Il est impératif de développer à la fois des partenariats publics-privés et avoir des vrais plans quinquennaux. Je sais que des fois on dit oui, mais plan quinquennal, c'est un peu has-been, c'est un peu vieille économie. Ben non, aujourd'hui, les grands pays qui se développent les plus vite ont des vraies stratégies de plan à 4-5 ans parce que ça nécessite effectivement des investissements lourds. Ces investissements lourds, il faut qu'ils soient à la fois porté par des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds ont un rôle essentiel, la Banque mondiale, l'AFD, Proparco, pour financer un certain nombre de grands projets liés à la transition énergétique et à l'industrialisation de l'Afrique, mais aussi des fonds privés, mais aussi des sociétés privées. Et il est important de faire venir des grandes sociétés privées qui vont investir en Afrique, à côté des gouvernements, à côté des bailleurs de fonds, à côté des fonds d'investissement. Mmh. Et c'est cette mixité, c'est ces partenariats publics-privés qui vont permettre, à travers des plans d'investissement par grandes filières, la filière de l'automobile, comme l'a développé le Maroc, la filière de l'aéronautique, comme l'a développé le Maroc, mais la filière aussi de l'énergie, la filière de l'agriculture. Donc chaque grande filière, l'Afrique doit se doter d'un vrai plan. Et aussi développer des partenariats d'un pays à l'autre, parce qu'on ne va pas pouvoir faire tout seul. Donc il faut aussi bénéficier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, moi je note, étant à la fois présent au Maroc et en Côte d'Ivoire, qu'il y a une très forte collaboration entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et je trouve ça très intéressant. Il y a d'autres collaborations qui peuvent se faire aussi, par exemple, avec le Sénégal, avec le Cameroun, etc. Donc je pense que il faut travailler fortement sur des investissements publics-privés, avec des vrais projets, avec des vrais plans, et avec une vraie collaboration cross-gouvernementale et étatique, parce qu'il ne faut pas raisonner qu'au sein d'un pays, il faut aujourd'hui raisonner sur une zone économique.
Il faut raisonner à l'échelle donc sous-régionale, voire régionale. Merci à vous, Benoît Ranini. Je rappelle que vous êtes le président de TNP Consultant qui a organisé donc, l'événement intitulé « Les histoires de demain ». C'était ce jeudi 22 juin 2023 à Casablanca. Donc, le thème était « L'industrialisation durable de l'Afrique et le rôle d'entraînement que joue le Maroc ». Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci beaucoup.
Destination Éco.
Notre destination Éco nous mène au Sénégal. Malgré le contexte actuel tendu et l'impact des différentes crises extérieures, la Banque mondiale estime que l'économie sénégalaise est toujours résiliente. C'est ce qu'on nous dit Maréma Diop dans sa correspondance depuis Dakar. Dans cette correspondance, vous entendrez des responsables de la Banque mondiale au Sénégal.
Les estimations de ce rapport de la Banque mondiale affichent un ralentissement de la croissance du PIB à 4,2% en 2022, alors qu'elle était de 6,5% en 2021. Dans ce document, les personnes vulnérables sont de l'ordre de 54%. Les 37 sont déjà pauvres et les 17 risquent de le devenir en cas de choc.
Cela est dû du côté de l'offre. Par le fait que l'activité économique a été affectée par les aléas du climat et du côté de la demande, une décélération de l'investissement privé, mais également des exportations. À moyen terme, nous prévoyons un rebond de la croissance économique en 2024, notamment grâce à l'exploitation des hydrocarbures. La croissance devrait s'établir à 9,9%.
Ce taux de 54% renferme les personnes pauvres, mais également les personnes vulnérables, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus de la ligne de pauvreté, qui, face à un choc, peut basculer dans la pauvreté. Il a été beaucoup question d'un problème de ciblage. Et ce qu'il faut dire, il faut reconnaître que le gouvernement a fait des efforts avec le registre national unique, puisque le registre était là avant la pandémie au Covid-19. Et ce registre nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans les subventions aux populations.
Pour lutter contre la pauvreté, le gouvernement sénégalais est en train de mettre en place des stratégies de réponse comme le programme national des bourses de sécurité sociale avec plus de 350 000 ménages bénéficiaires. Selon la Banque mondiale, les politiques de réduction de la pauvreté ciblant uniquement les populations pauvres pourraient se révéler inefficaces en cas de choc.
L'assainissement budgétaire reste important pour le Sénégal en ce qui concerne le respect de la feuille de route pour la suppression des subventions énergétiques. Le deuxième message clé qui a été véhiculé dans le message est que l'adoption de réformes visant à renforcer la viabilité de la dette est nécessaire, surtout dans ce contexte de durcissement des conditions d'accès aux marchés financiers. Et le troisième message clé qui a trait à la vulnérabilité à la pauvreté montre que toute politique publique qui se focalise uniquement pour réduire la pauvreté sur les ménages pauvres en termes de ciblage, pourrait se révéler inefficace en termes de choc, car il faudrait prendre en compte les populations qui sont vulnérables à la population.
Ce rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Sénégal met en exergue les politiques de réponse possibles aux besoins des groupes vulnérables pour améliorer leur résilience face aux chocs, ce qui constitue un défi majeur pour le pays.
Merci à vous, Maréma Diop. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.